franceinter.fr.
À la une de la science aujourd'hui, l'année du climat vue par un climato-sceptique, alors que la France est le pays hôte de la 21e conférence sur le climat qui va se tenir à Paris à la fin de l'année. On s'est demandé comment nos plus célèbres climato-sceptiques allaient supporter les mois qui arrivent en prévision de ce que certains surnomment déjà la conférence de la dernière chance. Celui que nous recevons aujourd'hui fait partie de ceux qui doutent toujours du réchauffement climatique. Vincent Courtillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géophysicien et membre de l'Académie des sciences. Est-ce que vous demandez l'asile à l'occasion de cette année du climat ou pas ?
Pas du tout. Je suis très bien en France, où le climat de la science et de la recherche n'est pas désagréable et où les discussions avec mes collègues de l'Académie des sciences en particulier sont tout à fait sympathiques et fructueuses.
Donc, enfin, ça va quand même être une année difficile pour vous, non ?
Mais ça dépend ce qu'on entend par difficile. Quand on n'aime pas le débat, c'est difficile. Mais moi, je pense que le débat, c'est au cœur de la science. Je dis souvent, quand on dit « ce problème est résolu, j'ai tout compris, circuler, il n'y a plus rien à voir », ben, s'il n'y a vraiment plus rien à voir, c'est que ce n'est plus de la recherche. Et ben, nous, on est dans un débat dans lequel le doute est important. Le doute, Richard Feynman disait que le doute était chèrement acquis au cours des siècles par les scientifiques et qu'il était une des composantes fondamentales de la science. Donc, douter n'est pas négatif en soi.
On a le sentiment de beaucoup moins vous entendre, en tout cas, les climato-sceptiques ces dernières années par rapport même à la conférence de Copenhague en 2009. Comment vous expliquez cette discrétion ?
Je ne crois pas, et ça dépend de l'échelle à laquelle on regarde. D'abord, ça dépend du pays. Je constate qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne, par exemple, dont je suis les articles et les publications, la voix des climato-sceptiques est beaucoup plus présente. En Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis aussi, pas mal de gens s'expriment. Pourquoi est-ce qu'en France, on est moins enclin à le faire ? Certains journalistes de certains grands médias ont choisi leur position et n'ont pas envie d'entendre d'opposition. Certains scientifiques croient que s'exprimer contre le réchauffement climatique, c'est tenir un langage qui paraît anti-écologique, alors qu'il n'en est rien, à mon avis. Enfin, il y a tout un tas de phénomènes
comment,
qui font...
Comment vous le vivez, personnellement ?
Je le vis de mieux en mieux. Je l'ai mal vécu il y a quelques années quand nous avons commencé avec mes collègues à nous lancer dans la recherche dans ce sujet. On n'était pas spécialistes de ce domaine, géophysiciens, spécialistes du magnétisme. Il se trouve que nous étions spécialisés dans l'analyse des très longues séries temporelles et de leurs variations au cours du temps. C'est très difficile d'étudier quelque chose qui varie toutes les minutes ou toutes les semaines ou tous les mois et de le suivre pendant plus de 100 ans. C'est très facile de transférer les outils mathématiques dont nous disposions à l'étude d'autres courbes, d'autres grandes séries temporelles, et le faire pour les séries du climat, pour la température, n'était pas très compliqué. Sans aucune idée a priori, on s'est mis à trouver des choses qui ne collaient pas avec la vision majoritaire. Et donc, c'est sans aucune intention a priori que nous nous sommes retrouvés comme ça, arrivés en science, avec des arguments pour dire, mais dites donc, les effets du soleil dont vous dites qu'ils ne sont pas très importants, nous, on les voit partout.
Vincent Courtillot, les trois dernières années les plus chaudes depuis plus de 100 ans sont 2014, 2010 et 2005, hein, selon la NASA et le service météorologique et océanographique des États-Unis. Vous niez ces résultats toujours ou pas ?
Je ne le nie absolument pas. Par contre, je m'élève contre la façon dont c'est représenté. Je vous remercie de cette question parce que ça, c'est une question de science et je vais vous dire quelle est la réponse. Si vous regardez l'évolution de la température moyenne de la surface du globe depuis 150 ans, c'est une courbe terriblement agitée qui n'arrête pas de monter et de descendre. Le climat, c'est la moyenne de cette courbe sur 30 ans. Il faut 30 années. Donc, je commence par vous dire que chaque fois que vous entendez parler de quelque chose qui s'est passé sur un mois, sur un an, même sur plusieurs années, ce n'est pas le climat. Le climat, c'est la tendance à long terme. Quand vous essayez d'extraire cette tendance à long terme de la courbe depuis 150 ans, elle monte et elle descend de temps en temps. Et depuis 18 ans, il y a un plateau. La température moyenne ne bouge pas. Mais en fait, c'est le climat. La température réelle, elle est agitée, donc vous superposez à ce plateau une courbe agitée qui va dans tous les sens. Il est mathématiquement obligatoire que tous les records des 10 dernières années ou des 50 dernières années soient là-dedans. Donc, deux affirmations absolument vraies sont 1. Il y a 18 ans que la température ne change pas en moyenne, le climat. 2. Les records annuels de température sont tous dans les 10 dernières années. Ces deux choses sont vraies. On n'entend pas la même chose quand on ne vous dit pas les deux.
Vincent Courtillot, en ce qui concerne les émissions de CO2, là aussi vous niez les résultats qui montrent que jamais on a émis autant de CO2 dans l'atmosphère ?
Bien sûr que non, et même c'est bien mieux connu que la température. La température, les variations sont très faibles, c'est des dixièmes de degrés Celsius, c'est pas commode à extraire. Le gaz carbonique, il n'y a pas de problème. problème, c'est clair, et tout ce que vous venez de dire est juste. La question n'est pas de savoir si le CO2 a augmenté, la question est de savoir si on est capable de démontrer que c'est le CO2 qui est responsable du réchauffement climatique. Presque tout le monde, GIEQiste ou pas GIEQiste, réchauffiste ou climato-sceptique, comme on dit, presque tout le monde est d'accord pour dire que le gaz carbonique est un gaz à effet de serre et que si on doublait la teneur en gaz carbonique qui existait avant l'ère industrielle, on augmenterait la température moyenne de l'atmosphère de 1 degré. Le problème, c'est que le principal gaz à effet de serre, ce n'est pas le gaz carbonique, c'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est très compliqué. On ne sait pas encore résoudre le problème complètement. Pour le GIEC, la vapeur d'eau amplifie l'effet du CO2 et le réchauffement, qui était de 1 degré avec le gaz carbonique, passe à 1,5 à 4,5. Pour d'autres scientifiques, dont le célèbre professeur Richard Lindzen, l'effet de la vapeur d'eau et du réchauffement, c'est d'augmenter les nuages. Les nuages renvoient la lumière du soleil vers l'extérieur et donc la Terre se protège par cet effet. Et pour lui, la vapeur d'eau diminue l'effet du gaz carbonique. C'est un débat. Ce débat est ouvert. Je pense que dire qu'il est réglé n'est pas exact.
Vincent Courtillo, pour reprendre la formule de Jacques Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Pour vous, rien n'est en train de brûler ?
La maison ne brûle pas et il y a des problèmes. Et si on a envie de s'occuper de l'humanité, de son bien-être, il y a des tas de choses à faire. Nous allons manquer au XXIe siècle, à coup sûr, ça c'est pas une hypothèse, d'eau potable pour de nombreuses populations sur le monde, d'un traitement correct des déchets dans une population de plusieurs milliards d'habitants dont 60% vont vivre dans les villes. On ne sait pas traiter ce problème aujourd'hui, il est parfaitement traitable. Et je ne parle pas de l'éducation des filles, de la lutte contre la faim. Vous savez que si on augmente la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère, on augmente dans les mêmes proportions les rendements agricoles. La maison ne brûle pas du point de vue du réchauffement climatique, ou plutôt, il y a bien des problèmes beaucoup plus certains, très dangereux, très urgents, qui ne sont pas vraiment étudiés, et ce problème du réchauffement qu'il est temps. Je dis souvent que je m'étonne du fait que les gouvernements envoient dans les conférences internationales sur l'eau, la faim, les déchets, des sous-chefs de bureaux de ministères, et qu'à ces conférences sur le climat tellement plus incertaines se dérangent les présidents de la République.
Vincent Courtillon, vous surnomme le climato-sceptique tempéré, paraît-il. Ça vous plaît comme surnom ?
Ça me plaît beaucoup.
Bon courage quand même pour cette année sur le climat, à l'occasion donc de la conférence qui va se tenir à la fin de l'année à Paris. Merci.
Mais je vous remercie beaucoup et j'espère avoir l'occasion de vous en dire plus sur les fondements scientifiques de ce que nous pensons.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, prévoir les maladies depuis le ciel, les données transmises par les satellites comme les températures, les précipitations ou encore l'humidité des sols sont désormais utilisées par les épidémiologistes pour prédire plusieurs mois à l'avance les risques d'épidémies de maladies tropicales. Ces informations seraient très utiles dans les pays en voie de développement pour allouer plus efficacement les ressources dans les zones les plus à risque. C'est ce qu'a expliqué le directeur de la faculté de santé publique de l'Université australienne de Canberra lors de la conférence annuelle de l'Association américaine pour l'avancement de la science, qui était réuni le week-end dernier en Californie. Un combat entre un phoque et une pieuvre géante. Le duel a été photographié au Canada le 9 février dernier. Le phoque long d'environ 1,40 m tenait dans sa bouche une pieuvre géante du Pacifique, mais celle-ci ne s'est pas laissée faire et la lutte a duré une dizaine de minutes jusqu'à ce que le céphalopode réussisse à s'échapper. Vous pouvez retrouver les photos de ce duel sur la page Facebook de la Tête au Carré. Et puis le robot android japonais Kiribo est revenu sur Terre. Si ses aventures n'ont pas été très médiatisées en France, c'est une star au Japon, notamment chez les écoliers. Ce robot est envoyé 18 mois dans la Station Spatiale Internationale afin d'étudier l'intérêt éventuel d'un robot de compagnie dans des situations d'isolement prolongé. Il a notamment tenu compagnie à son compatriote japonais, le spationaute Koichi Wakata.